la transition est toute trouvée, puisque effectivement, si les Français n'ont pas fait de western dans les années 50, c'est qu'en fait, ils ont fait des bandes dessinées. Et je crois sincèrement que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la bande dessinée est le média par lequel les Français ont le plus massivement diffusé et construit un récit de l'Ouest en France. Et c'est très net. Alors effectivement, ils n'ont pas fait de western, ils ont accueilli les westerns américains, mais ils ont fait et ils font encore dans la bande dessinée. Et aujourd'hui encore, tous les mois, sortent plusieurs bandes dessinées à thématique western en France. Ça reste un flux constant. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur un moment bien précis de cette construction de l'Ouest en France par la bande dessinée, avec une chronologie courte, des années 50 aux années 80 uniquement, qui joue sur deux phases a priori très antagonistes. La phase guerre froide, avec cette rigidité a priori, et les années 68, qui se poursuivent jusqu'au début des années 80, a priori plus souple autour de la notion de contre-culture, mais on verra que ça n'est pas toujours le cas. Donc une chronologie courte. Un espace particulier, parce que je ne vais pas traiter de tout l'Ouest, mais uniquement de ce que l'historien appelle depuis Bolton au début du XXe siècle les Borderlands, c'est-à-dire la zone frontalière États-Unis-Mexique. Alors voilà, ça fait un siècle que les historiens appellent cette région comme ça. Aujourd'hui, le concept a évolué, sert notamment à définir des espaces aux identités floues, imprécises. Bon. Et on verra que ça n'est pas justement toujours le cas dans la bande dessinée, où au contraire, mettre en scène cet espace-là sert au contraire à créer des identités très claires autour des Anglo-Américains, des Mexicains et des Indiens, qui se construisent des blocs comme ça identitaires assez essentialisés, assez étonnants. Et puis, donc, un thème, la construction de nations, comment la nation anglo-américaine apparaît aux yeux des Français par cette guerre permanente qu'elle mène contre les Indiens et qu'elle regarde chez les Mexicains en guerre civile, et comment les Mexicains et les Apaches, Navajo et Comanche, que les Français dessinent dans cette zone-là, se construisent eux-mêmes dans cette identité. Alors, d'abord, pour contextualiser brièvement, effectivement, la bande dessinée franco-belge, alors je dis bien franco-belge, parce que c'est un espace commun, on va dire, de production et de diffusion de bandes dessinées. On ne peut pas dire francophone, parce que les Québécois ne participent pas à cet univers, les Suisses un peu, mais essentiellement c'est franco-belge. Globalement, il y a donc deux phases. Dans la première phase, la bande dessinée classique, de la fin des années 40 au milieu des années 60, on va dire, on a un champ qui se structure essentiellement du fait de la loi de 1949, loi sur les publications destinées à la jeunesse. Cette loi bloque l'arrivée de productions américaines, clairement. On n'importe plus de bandes dessinées américaines et fonde un code moral extrêmement strict, puisqu'il y a interdiction de représenter du sexe, de la violence, et toute atteinte à l'ordre est interdite dans la bande dessinée. La commission de censure a toujours été très stricte là-dessus, y compris dans la bande dessinée, pas forcément western, mais représenter des gendarmes, par exemple, était très compliqué pour les auteurs de bande dessinée parce qu'on ne pouvait pas se moquer des gendarmes. C'était impossible. On ne touche pas à l'ordre social. Donc cette loi est extrêmement importante parce qu'elle interdit l'arrivée de produits américains. Et c'est une loi donc protectionniste qui, comme toute loi protectionniste, va contribuer à la création d'une industrie nationale très puissante, l'industrie de la bande dessinée en France et en Belgique également. Et elle est intéressante parce que les auteurs français et belges vont s'approprier la matière américaine et ils ne vont plus l'importer, mais en produire eux-mêmes. Alors, en s'inscrivant dans un continuum, je vais le montrer, mais ils produisent massivement de la bande dessinée western. Alors, pas que western, on a aussi des aviateurs américains, tout soldat américain, enfin, alors, une matière américaine massive. Alors, cela se diffuse par des revues que tout le monde connaît, le journal de Spirou, le journal de Tintin, sont les deux revues phares de cette époque-là. Le journal de Spirou qui est né avant-guerre mais qui renaît après-guerre, le journal de Tintin qui est une création de la fin des années 40, ce sont des revues belges mais qui ont une édition française. Il y a une édition belge et une édition française, elles sont légèrement différentes. Donc attention, quand on trouve un exemplaire, de bien faire la différence. Les Belges et les Français n'ont pas exactement les mêmes revues. On adapte au public quand même. Et ces revues évoluent dans un contexte culturel très précis, qui est la guerre froide, concrètement, et elles contribuent à fonder un modèle culturel, un modèle civilisationnel face à l'URSS. Et l'objectif de ces bandes dessinées est de montrer que le monde occidental est le bon, qu'il est porteur de progrès technique, qu'il est porteur d'un modèle culturel honnête, celui de la cellule familiale, d'un ordre genré, très, très hétéronormé, avec un mâle blanc hein, au centre de la famille, et ce mâle blanc a comme vocation à défendre cet ordre familial. Bon. Les bandes dessinées, globalement, respectent ce canevas-là. Qu'elles soient western ou autre, hein, la bande dessinée comique respecte également ce canevas-là. Hein. Boule et Bill, Modeste et Pompon respectent parfaitement ce canevas-là également. Bon. Alors, il y a une deuxième phase dans laquelle je m'inscris aussi, qui est la bande dessinée des années 68, qui évolue autour de structures neuves. Les périodiques éclatent, alors Tintin et Spirou existent toujours, mais se crée une multitude de nouvelles revues, la première étant Pilote, mais dans les années 70, d'autres revues explosent comme Fluide Glacial, À Suivre, les Métal Hurlant, par exemple, hein, qui a fait l'objet d'une très belle exposition à Angoulême l'année dernière. Donc une explosion de nouvelles revues, des revues qui se distinguent parce qu'elles changent de public. Elles se destinent en partie aux adultes, alors que jusque-là, la bande dessinée vise un public enfantin. Là, on vise un public plus adulte, et puis on adopte une politique d'auteur. C'est très clair. Hein. Il y a une recherche finalement de doctorialité plus profonde, hein, un geste artistique dans la bande dessinée que l'on considère dorénavant comme un art, alors que jusque-là, c'était pas net. Hein. La condition sociale des scénaristes et des dessinateurs était assez piteuse hein, par rapport à ce qu'elle peut devenir éventuellement. Et puis, ce nouveau modèle diffuse beaucoup une culture différente. Hein. Ce sont les années 68. Autour des mouvements qui explosent à ce moment-là, l'écologie, le féminisme, la lutte contre l'impérialisme américain au Vietnam, tous ces éléments-là se retrouvent évidemment dans la bande dessinée et dans la bande dessinée western également, on va le voir avec des nuances. Alors, autour de ces deux modèles, évidemment, il y a aussi des tendances de longue durée dans lesquelles s'inscrit la bande dessinée western franco-belge. C'est, et on l'a évoqué ce matin avec Lucas Di Gregorio, l'héritage, évidemment, de longue durée du récit français de l'Ouest américain. Gustave Aimard a été évoqué ce matin. On retrouve du Gustave Aimard dans la bande dessinée française, en partie. Il y a certains éléments qui circulent comme ça d'un média à l'autre et d'une époque à l'autre. Mais il ne faut pas oublier que le roman populaire western français continue. Il y a eu Gustave Aimard au XIXe siècle. Dans les années 1930 jusqu'aux années 1950, Albert Bonneau publie lui-même des dizaines de romans western. Pierre Pelot prend sa suite dans les années 70 et jusqu'aux années 80. Donc il y a une vraie continuité de la production d'un récit populaire western en France qui ne passe pas tellement par le cinéma, si ce n'est dans les années 1900-1910, mais après, évidemment, ça s'épuise. Mais on a une vraie continuité comme ça, notamment dans cette approche du nord mexicain que j'expliquais ce matin. Alors, la bande dessinée est également dans un dialogue permanent avec d'autres médias, le cinéma, évidemment, le cinéma américain, quand il envahit massivement le marché français, a des répercussions évidentes sur la bande dessinée. On retrouve, alors je ne le montrerai pas là parce que ce ne sont pas des bandes dessinées qui se passent sur la frontière franco-mexicaine, mais on retrouve des acteurs américains dans la bande dessinée française. Voilà, ils sont une transmission exacte d'un média à l'autre. Hein. Parfois même des scénarios entiers qui se retrouvent transmis comme ça dans la bande dessinée française et belge. Donc un dialogue permanent. Et puis, ce que je voudrais montrer, malgré tout, une interrogation sur la pertinence de cette coupure entre, a priori, des années 50 rigides et des années 68 plus ouvertes sur la contre-culture. Alors, autour de ces borderlands, tout se dessine entre trois blocs, comme j'évoquais. Les Mexicains d'un côté, les Indiens, pris globalement, c'est-à-dire essentiellement, je dis Apache, Navajo, Comanche, les nations que l'on retrouve dans ces bandes dessinées, et puis les Anglo-Américains. Donc il y a une sorte de triangulation autour des borderlands, entre ces trois masses hein, qui sont essentialisées dans la bande dessinée américaine, franco-belge. La bande dessinée visant essentiellement quand même à simplifier les traits, hein, c'est comme ça qu'elle fonctionne, et c'est pour ça qu'on l'aime, elle simplifie, et ça lui donne un effet extrêmement efficace. Alors, qu'est-ce que ça donne si j'essaie de caractériser les trois côtés décrits, côté mexicain? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Borderlands, a priori, d'après les historiens, se caractérisent par... C'est un espace commun. C'est-à-dire, du côté américain, a priori, c'est aussi hispanique que du côté mexicain. Et on le sait, historiquement, c'est vrai. Ce qui est frappant dans la bande dessinée franco-belge, c'est qu'il n'y a pas d'hispanique côté américain. Si on veut trouver des hispaniques, il faut passer la frontière. Il faut aller au Mexique. Ils ont été totalement effacés du côté américain. C'est assez étonnant. Bon. Et les héros, par contre, passent très facilement côté mexicain. Or, côté mexicain, qu'est-ce qu'on trouve ? Des villes. Le Mexique, on trouve assez peu de paysages ruraux mexicains. Par contre, on trouve des villes. Alors voilà, chez Lucky Luke, un grand classique. Alors avec une différence, là c'est juste Maurice parce que qui dessine et scénarise. On est en 1949, ça fait partie des premiers Lucky Luke. Celui d'à côté, Goscinny, est venu parce que Maurice s'est très vite rendu compte qu'il n'arrivait pas à faire des scénarios. Il était très mauvais en scénario. Son éditeur lui demandait des scénarios de 44 pages, il n'y arrivait pas. Donc il s'est adjoint Goscinny, qui lui était un excellent scénariste, qui avait prouvé qu'il l'était, et à partir de là, ils ont travaillé ensemble à partir du numéro 8, de l'album numéro 8 de Lucky Luke. Bon, cela dit, la différence ne saute pas aux yeux. Ce qui est frappant, c'est les éléments communs entre 49 et 67, c'est-à-dire la ville mexicaine, elle est avant tout apathique, elle est tranquille. Et il n'y s'y passe rien, d'une certaine manière, dans la ville mexicaine. Il n'y s'y passe rien, sauf si un Anglo-Américain arrive. Alors, là, c'est un bandit qui trouble la tranquillité du village. Là, c'est Lucky Luke. On a l'impression qu'il ne trouble pas grand-chose. Et justement, toute la bande dessinée, des tortillas pour les Dalton, c'est Lucky Luke qui essaie de troubler un peu, quand même, hein, la ville mexicaine, de la réveiller, de la secouer. Mais elle ne se secoue jamais. Elle ne se réveille pas, la ville mexicaine. On est là dans un monde d'apathie totale. Le monde mexicain, on le voit dans ces villes-là, il ne s'y passe rien. C'est un monde arriéré, immobile, apathique, hein, et qui fait la sieste en permanence. Ce qui caractérise les Mexicains, c'est la sieste, d'une certaine manière, dans ces villes-là. Bon, on le voit ici, hein, vous avez un Mexicain en pleine sieste. Alors, cela dit, cette vision n'est pas que négative, puisque c'est aussi une vision d'un monde idyllique, de tranquillité parfaite, hein, que l'on retrouve ici de manière ambiguë, on va dire. On est là chez Blueberry, grand classique également, de l'époque suivante, et c'est ça qui est intéressant, on est là dans les années 70, dans deux albums parus la même année, hein, début 73 et fin 73, avec deux visions de la même ville, Chihuahua, assez étonnantes, parce que totalement opposées a priori, hein, avec des entrées de ville. Hein, voilà, les villes en général sont représentées quand le héros anglo-américain y entre. Bon. Dans le premier, on a Blueberry, qui rentre en ville, et Chihuahua n'est plus cette ville de chez Lucky Luke, merveilleusement tranquille des Mexicains, c'est un tripot pour Américains. Voilà. Hein, c'est un grand bordel et un grand bar pour Américains. Donc la ville mexicaine, soit il ne s'y passe rien, soit c'est un bordel pour Américains. Bon. Mais en même temps, la même année, à la fin de l'année, ils produisent une autre image de la même ville, Chihuahua, avec cette fois-ci des troupes mexicaines qui arrivent, et on retrouve cette image d'une ville mexicaine où rien ne se passe. Avec des Indiens, alors là c'est intéressant parce que on voit bien que Giraud qui dessine a une culture picturale, parce qu'on est là, on retrouve des éléments des peintres de l'école de Taos, hein, parfois on retrouve Ernest Blumenschein dans certaines cases de Giraud quand il montre le Mexique, c'est assez étonnant. Mais on a cette double acception de ville mexicaine, à la fois chaotique parce que les Anglo-Américains s'y imposent et en profitent, et apathique côté mexicain. Alors, ils ont essayé d'en faire la synthèse, Charlie et Giraud, en 83, dans cette case qui est la case initiale, qui occupe une demi-page de cet album qui s'appelle La dernière carte, qui est un très bel album, où on retrouve finalement tous les éléments ensemble, avec à la fois, vous voyez ici, des Indiennes tranquilles, un monde indien qui est là, et on retrouve également, vous voyez, sur le balcon, cette vie, enfin, ce tripot pour Américains. Voilà. Tout est synthétisé dans cette même case de 1983. Donc le Mexique, une vision assez ambiguë. Elle n'est pas ambiguë quand il s'agit de représenter les élites mexicaines. Les élites mexicaines sont systématiquement incapables, corrompues, feignantes. Voilà. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. On le retrouve chez Lucky Luke, dans le même album. Il vient alerter le shérif, hein, l'équivalent du shérif, et il ne fait rien, le shérif fait la sieste. Et il ne se réveillera jamais, globalement. Hein, voilà. On essaiera en vain, mais il ne se réveillera pas. Donc, les élites mexicaines ne font rien, ou quand elles le font, c'est pour se manifester par la violence, la corruption et la dictature locale. Ce sont des petits potentats locaux, les Mexicains. Ici, dans Le Cavalier perdu, un autre album de Blueberry. Vous voyez, le droit, tu es bien naïf, l'Américain, c'est moi qui le fais ici. Donc, on oppose clairement l'Américain qui, lui, vient d'un monde d'ordre où le droit l'emporte, et le Mexique, où le droit ne vaut rien. Le droit, c'est le gouverneur qui le fait. Point. Et là, c'est intéressant pour le récit, puisqu'évidemment, ça donne l'occasion au dessinateur de... Il y a des galeries de portraits de méchants mexicains, c'est étonnant, dans cette bande dessinée. Hein, tous plus terribles les uns que les autres. Alors, ces méchants mexicains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la révolution en permanence. Voilà. Le Mexique se caractérise par son instabilité. Voilà, on est chez Jerry Spring, qui est publié dans le journal de Spirou. On est là dans le troisième épisode de Jerry Spring. On est là dans la première page et voilà, Jerry Spring arrive au Mexique. Jerry Spring est un marshal, alors un marshal itinérant dans la bande dessinée, c'est étonnant, mais bon. Et il arrive au Mexique et qu'est-ce qu'il trouve? Évidemment, des pauvres Mexicains qui fuient la révolution, encore la révolution, toujours la révolution. Le Mexique ne s'en sortira jamais. Et les héros anglo-américains sont toujours pris dans ce tourbillon qui, évidemment, d'un point de vue narratif, est très efficace aussi. Voici Jerry Spring. Alors, ça donne des situations comiques. Jerry Spring allait être fusillé par un clan. Finalement, il y a une révolution, ils sont renversés, il va être fusillé par l'autre clan, il va être sauvé. Enfin, voilà, on est dans une instabilité totale. Et ce schéma narratif se retrouve chez Blueberry. On le voit ici, dans la dernière carte. Puisque Blueberry et ses acolytes, Redneck et McClure, vont être fusillés par le gouverneur Vigo. Et au moment, évidemment, où ils vont être fusillés, il y a la mort. Alors là, il y a un contexte historique, la mort de Juarez et l'arrivée de Diaz au pouvoir fait que Vigo est destitué immédiatement et remplacé par un autre dictateur local, globalement. Ça ne change rien à la situation locale, si ce n'est que ça permet de sauver Blueberry. Mais c'est la révolution permanente. La ville mexicaine, c'est la ville où on complote. Voici McCoy de Gourmelen et Palacios en 1982. Le scénario est assez simple. McCoy, qui est un sergent, est envoyé dans une ville mexicaine, Durango, parce qu'il soupçonne des trafiquants d'armes, etc. Et arrivé à Durango, c'est le chaos, c'est la révolution, évidemment. Et le gouverneur de la ville s'apprête à résister à des bandits révolutionnaires qui vont investir la ville. Et McCoy va l'aider, en l'occurrence. Mais voilà, la ville mexicaine, c'est une ville où on fait des plans, où on complote, et où on résiste, où on combat en permanence. Donc, une impossibilité de construire une nation stable, un ordre stable au Mexique. Côté indien, c'est étonnant, parce qu'il y a une stabilité des structures du récit. Il ne peut y avoir que deux types d'Indiens, des bons et des mauvais. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et le bon Indien est toujours le même, c'est celui qui accepte la domination blanche. Le mauvais Indien, c'est celui qui veut résister, qui fait la guerre. C'est toujours la même chose. Il y a une constante. Alors là, on est chez Jerry Spring, dans Trafic d'armes également. Jerry Spring va chez les Apaches, Apaches qui sont au Mexique, parce qu'ils veulent des armes qu'ils vont prendre aux Mexicains, qu'ils vont acheter aux Mexicains. Et Jerry Spring va essayer de négocier avec les Apaches, c'est impossible, les Apaches ont besoin de carabines. Les Apaches ne sont pas des chiens esclaves, ils ne quitteront pas la piste de guerre. Le visage pâle est venu du camp des coyotes mexicains, il sera traité comme eux, que mes jeunes gens l'attachent comme un prisonnier. Long Rifle a parlé. Donc Jerry Spring est attaché, ce chef Apache est le méchant indien qui en veut à ce bon représentant de l'ordre. Et là vous avez, évidemment, la dernière case, le gentil Apache qui va sauver Jerry Spring, parce que lui croit à l'ordre américain. Mais traditionnellement, et c'est pas nouveau dans la bande dessinée, ça a été bien étudié, ça date du 19e, on a ça chez Cooper aussi, le bon indien c'est celui qui accepte l'ordre parce que c'est celui qui est détribalisé. Voilà. C'est un individu. Voilà. Il a accepté d'être un individu et de ne plus appartenir à sa communauté indienne. Et là, il est passé du bon côté, d'une certaine manière. Les Indiens qui restent en tribu sont forcément les méchants qui résistent. On le retrouve ici, dans un petit opuscule anonyme, Kit Carson. L'intrigue est simple, vous voyez, on est chez les Comanches, il y a un bon sorcier et un méchant sorcier. Le bon sorcier discute avec Kit Carson, il s'appelle Œil Torve, il a accepté la domination blanche, il est très gentil. Le méchant sorcier, il est ici, il veut relancer la guerre contre les Blancs, et en plus c'est un usurpateur, il triche pour faire croire à ces pauvres Comanches, qui sont crédules évidemment, qu'il a des grands pouvoirs. Donc voilà, on le retrouve chez Blueberry, avec Cochise, qui est un chef, c'est marqué là, un vieux et sage qui aime son peuple et pleure chacun de ses guerriers tués. La guerre est sans issue pour lui, rendons-lui confiance, il acceptera de traiter. Cochise est le bon Indien, qui va accepter de faire la paix avec les Américains. Ici, on a Capa n'a qu'un œil, qui est lui le méchant, qui va faire la guerre sans arrêt, qui va trahir sans arrêt. Alors Capa n'a qu'un œil, en plus il a évidemment un stigmate graphique, il est borgne, donc il est méchant. Principe de la bande dessinée. On simplifie, il faut un stigmate graphique du caractère moral. Il aurait pu être roux, c'est possible aussi, mais les Indiens sont rarement roux, donc il est borné. Bon. On le retrouve ici chez McCoy, c'est frappant, on est encore chez les Apaches. Le méchant, les morts ressusciteront quand les vivants auront rejeté les Blancs de la terre de nos ancêtres. Tuer soldats, tuer les Blancs, tuer. Et vous avez le bon Apache qui est là. Seul l'Apache peut trouver un Apache sergent. Lui, il est éclaireur dans la cavalerie nordiste. Le fond est bleu, qui est la couleur de l'apaisement, du consensus, alors que de l'autre côté, on a un registre graphique extrêmement violent. Le bon Indien, le mauvais Indien. Alors, il y aurait pu y avoir une évolution, justement, de ce schéma dans les années 68, mais là, vous voyez bien, on est en 80, ça ne marche pas. En fait, c'est là que les Borderlands se distinguent. Dans la bande dessinée, il y a, dans les années 70, de très bons Indiens. Et il y a des utopies indiennes. Il y a des, on voit des héros blancs qui vont vivre chez les Indiens et qui vivent en harmonie avec les Indiens. Mais ce n'est pas dans les Borderlands. Ce sont dans les Rocheux, dans le nord des Rocheuses, on a des héros, des trappeurs. On l'évoquait ce matin, le retour de la figure du trappeur. Mais ça n'est pas sur la frontière franco-américano-mexicaine. Cette frontière-là, elle est systématiquement violente. Et donc avec ce diptyque indien. Même quand il y a une légitimité de la résistance, elle est ambiguë. Le cycle indien, un des cycles indiens de Blueberry, Nécassé, la longue marche et la tribu fantôme, hein, 80, 81, 83, est intéressant de ce point de vue-là. Blueberry a été adopté par une tribu de Navajo, on n'a pas, il y a Cochise et Vittorio, et on retrouve cette opposition, Cochise et Vittorio, Vittorio qui veut faire la guerre, et Cochise qui veut fuir tout simplement le pays pour passer au Mexique. Là, on a changé d'idée, c'est-à-dire que ce que veut Blueberry, c'est pas forcément que les Indiens acceptent la paix, c'est qu'il s'est rangé du côté indien, il est d'accord avec l'idée qu'ils ne peuvent pas vivre avec les Américains parce qu'il y a une conquête coloniale, on ne peut pas faire, mais la solution c'est de fuir, c'est pas de résister. Donc on retrouve cette opposition, ici Vittorio est le méchant indien qui veut résister par la violence, graphiquement il est en rouge, voilà, c'est assez frappant, mais la différence avec les années 60, c'est que Blueberry est quand même du côté Navajo et finalement il va les aider à fuir. Voilà la fin de la tribu fantôme en 82, à 83, j'ai tenu le serment fait à Cochise, Vittorio, voici ton peuple en sécurité et le moment où nos pistes se séparent. Donc là, les Navajos ont été libérés par le blanc, finalement, à nouveau, là c'est nouveau, mais en fuyant, pas en faisant la guerre, malgré tout. Les choses sont relativement ambiguës de ce point de vue-là. Alors, le troisième côté, c'est le côté anglo-américain. Le côté anglo-américain, il y a des villes également, elles sont totalement différentes des villes mexicaines. Ce sont de belles petites villes, bien propres, animées, avec un ordre bourgeois. On a là des familles victoriennes, globalement, les villes vives, on le voit bien. Alors, alors Lucky Luke, d'ailleurs pas Lucky Luke, Maurice adorait dessiner des petites villes, il y en a dans quasiment tous les épisodes de Lucky Luke, ces petites villes de l'Ouest, avec donc le saloon, le magasin, le barbier, la diligence, le train, une petite ville active, une communauté en gestation dans l'Ouest, que l'on retrouve ici, dans une bande dessinée qui paraissait à l'époque chez Bagarre, un mensuel catholique, et qui était... Alors, les couleurs ne sont pas les couleurs d'origine, parce que ça a été réédité en 1998 avec une colorisation un peu agressive, mais je n'ai pas les versions d'origine. On retrouve ce même schéma, petite ville, animée, avec des familles, vous voyez une femme ici, un ordre bourgeois victorien, le magasin, etc., tout marche bien. Voilà. L'opposé de la ville américaine. Alors, il y a une nuance, c'est quand on représente une ville minière, malgré tout, hein, on la voit ici chez Blueberry, la ville minière, c'est l'équivalent de la ville mexicaine. C'est un tripot. Voilà. Mais c'est vraiment... Voilà, il y a un modèle de ville américaine qui peut être le mal, alors que la ville américaine, normalement, est la partie positive. Alors, dans ces villes, émergent des héros, des vrais héros, hein, des hommes des vrais, j'allais dire. Hein. Le rôle du héros anglo-américain, qui est toujours blanc et mâle, évidemment, c'est donc de rétablir l'ordre, spécifiquement ici donc contre les Indiens, et éventuellement d'aller rétablir l'ordre au Mexique, tant qu'à faire. Alors, de temps en temps, il rétablit l'ordre aussi contre des bandits anglo-américains, mais les bandits anglo-américains, ils sont souvent métis, en fait, on se rend compte qu'ils sont souvent métis, et que de toute façon, ils sont alliés aux Mexicains ou aux Indiens, enfin voilà, ils vendent des armes aux Indiens en trafiquant avec les Mexicains. Alors, ces héros ont trois éléments fondamentaux. D'abord, la plupart du temps, ils représentent l'État. C'est une présence fédérale. Une présence fédérale. Sous deux formes. Soit un marshal. Alors, avec des nuances, parce qu'ici, on a par exemple Kit Carson, qui n'est pas officiellement marshal, mais en fait, il agit en permanence dans la bande dessinée comme représentant de l'armée. On le voit là, en avant-tonnerre, allant apprendre la bonne nouvelle au commandant Grant, il agissait comme représentant de l'armée. Et on retrouve, voilà, tous les marshals possibles, hein, ou alors des soldats. Bon. Ici, on a Jack Diamond, qui est donc agent fédéral. Le pouvoir fédéral est extrêmement important, c'est l'ordre dans l'Ouest. Bon, ça n'est pas un monde d'anarchie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un monde d'ordre. Il y a un pouvoir fédéral en permanence dans l'Ouest. Donc cet agent fédéral, Jack Diamond, Jerry Spring ici, ils sont intéressants parce qu'ils sont intéressants dans leur présence genrée, d'une certaine manière. Ce sont donc des hommes blancs, je le disais, qui se manifestent surtout par leur masculinité tout en contrôle. Ils ne sont pas violents. Ils savent contrôler leur violence. La différence entre le méchant blanc et le bon blanc dans ces BD-là, c'est que le méchant blanc, il est violent, il est impulsif. Il ne contrôle pas sa virilité. Le héros blanc, il contrôle sa virilité. Il correspond à un modèle masculin bourgeois qui existe depuis le milieu du 19e siècle. Bon. Voilà. Je n'aime pas me servir d'une arme. Voilà ce que dit Jerry Spring. Mais vous pouvez constater que je sais le faire, malgré tout. Donc si je suis contraint de rétablir l'ordre, je le ferai. Mais je n'aime pas ça. Mon monde, il n'est pas violent. Bon. Là, ce sont les marshals. À côté de ces marshals, on a évidemment la cavalerie, présence fédérale s'il en est. On est là chez Lucky Luke, avec des Indiens de pacotille, puisque ce sont des pieds bleus qui, évidemment, n'existent pas. Mais la scène se passe en Arizona, très clairement, dans cette bande dessinée. Et alors Lucky Luke a tenu la ville, mais qui sauve la ville, évidemment, à la fin, c'est la cavalerie. Forcément, que l'on retrouve ici chez le lieutenant Burton, de la part qui est une bande dessinée des époux Funken. Alors les époux Funken, c'est intéressant parce que Lillian Funken est la seule femme de cette histoire-là. Hein, la bande dessinée, c'est fait par des hommes essentiellement à l'époque. Et alors il y aura une exception avec Cartland, mais qui n'évolue pas dans les Borderlands. Mais sinon, dans ce monde-là, la seule femme auteure, c'est Lillian Funken. Mais ça ne change rien. Voilà. Il n'y a pas de parole féminine derrière cet auteur. Bon. Donc là, on a voilà, un lieutenant fédéral dans toute sa splendeur, de la même manière, hein, qui désarme les bandits, qui manifeste clairement une hiérarchie raciale. Hein. Donc, forces égales, 4 cavaliers du 7e valent bien 12 Apaches pillards. 4 blancs valent 12 Indiens. C'est ce qui est dit clairement. Si on pousse en 82, on a les mêmes héros. Avec, évidemment, graphiquement, on a changé de modèle, on est à 82, mais le scénario est le même. McCoy est un sergent de Fort Apache, dont l'objectif est de rétablir l'ordre. Il est envoyé en mission en permanence. Bon. Alors, il y a une évolution temporelle possible, malgré tout, c'est Blueberry. Blueberry est un héros à part, mais qui reste ambigu. Quand Blueberry apparaît, en 65, dans Fort Navajo, c'est un lieutenant de l'armée américaine, les aventures du lieutenant Blueberry, qui a un rôle classique, c'est-à-dire il est chargé de rétablir l'ordre, il est à Fort Apache, il est chargé de rétablir l'ordre chez les Indiens. Donc a priori très classique, on lui fait la tête de Jean-Paul Belmondo, donc on est à nouveau dans des relations cinéma-bande dessinée. Mais il se distingue malgré tout au sens où c'est un violent, lui. Voilà. Lui c'est un joueur et un violent, il n'hésite jamais à servir de ses points, et à aller jouer et à tricher au jeu. Donc il y a une nuance, on est en 65, on peut quand même faire nuancer un peu le personnage. Mais en 71 encore, il reste un soldat. Ça reste le vrai héros soldat, qui se met du côté des Indiens, etc., mais qui reste soldat. Mais il évolue. Il évolue parce que le scénario de Charlier le fait rejeter de l'armée, à un moment donné. Voilà. Pour une accusation fausse, mais bon, il est rejeté de l'armée. Et à ce moment-là, alors, non seulement il vieillit, ce qui est rare chez les héros, on le voit vieillir, hein, ses cheveux blanchissent, etc., mais il devient une sorte d'anti-héros. Ça devient un hors-la-loi, un réprouvé, qui va se mettre du côté des Indiens, qui, dans les bandes dessinées que j'évoquais tout à l'heure, va être adopté par un tribu navajo sous le nom de Nekassé pour se réfugier. Il va vivre en Indien, on le voit ici, dans cette casquette extraordinaire où il va aller chercher des plumes d'aigle pour séduire la fille de Cochise, Chini. Donc il va effectivement se plonger dans le monde indien. Mais malgré tout, tout n'est pas clair dans ce retournement de valeur. Il reste porteur de valeurs très masculines malgré tout. Et dans le même épisode, l'année cassée, certes, il tombe amoureux de Chini, la fille de Cochise, mais il va la laisser à son rival indien, Vittorio. Et il va finir par se tourner vers Chihuahua Pearl, qui est une danseuse blanche. Donc tout ne peut pas être inversé quand même, même au fil de 1668, et même avec Charlier et Giraud, et notamment Giraud, qui était connu pour son engagement dans la contre-culture et son usage de psychotropes quand il dessinait. Il ne s'en est jamais caché. Bon. Donc si je veux conclure, parce qu'il est l'heure, largement, bon. Si je veux conclure, on a donc trois modèles finalement. On a une nation mexicaine qui est entravée par l'ignorance populaire, la corruption de ses chefs, donc une nation impossible d'une certaine manière, hein, qui ne marche pas, qui est incapable de fonctionner. Des nations indiennes qui se heurtent au sens de l'histoire, clairement, hein, ça ne sert à rien de résister, de toute façon ça ne marche pas. Et à leur propre finalement minorité morale, elles ne réussissent que quand elles sont guidées par des blancs. La seule nation efficace, c'est la nation américaine, qui est porteuse d'ordre, qui est porteuse de progrès. Voilà. Alors, on se dessine là une géopolitique finalement nord-américaine pour un public français, avec les années 68 qui font évoluer les choses, mais en font semblant. Mais attention, c'est spécifique, on est bien d'accord, à cette frontière américano-mexicaine, parce que d'autres dessinateurs vont mettre en place des utopies indiennes complètes, mais plus au nord, dans les Rocheuses, notamment au contact des Sioux et non pas des Apaches. Là, il y a une vraie différence entre nations indiennes. Auprès des Sioux, on peut vivre. Auprès des Apaches, c'est moins sûr.